Chapitre 8. Le Maelstrom. Sita s'avança au-delà de ses hôtes et leur fit l'accueil le plus gracieux. Corcoran les présenta et expliqua en peu de mots les liens de parenté qui l'unissaient à Quatarkem. « À toi maintenant de parler, » dit-il en se tournant vers lui, « et de nous dire comment tu nous arrives par le chemin des airs. »« Mon histoire est un peu longue, » répliqua Quatarkem, « mais je l'abrégerai. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à Paris, je crois, dans la rue des Saints-Pères, il y a 4 ans. Je cherchais alors le moyen de diriger les ballons, et j'étais un pauvre diable. » Vivant de peu, mangeant du pain rassis, buvant l'eau des fontaines publiques, chaussé de souliers percés et vêtu d'un habit dont les coudes riaient de misère. Cependant, à force de chercher à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, j'ai fini par résoudre mon fameux problème. « Ô Christophe Colomb !» s'écria Corcoran. « Le monde t'appartient. Nul homme n'a fait autant que toi pour ses semblables. »« Ne te presse pas de m'applaudir, » dit Quatarkem. Je ne suis pas aussi bienfaiteur de l'humanité que tu pourrais le croire au premier abord. Aussitôt ma découverte faite, comme la science n'avait plus besoin de moi, je devins amoureux d'Alice, que tu vois, et qui nous écoute en souriant. Amoureux à en perdre la raison. J'étonnais la mère, je bravais le père, un vieil anglais, archéologue et grognon. Je bousculais le rival, un monsieur Harrison ou Hérisson, qui fait le commerce du coton à Calcutta. Je troublais ce pauvre garçon au point qu'il tira un coup de pistolet sur son futur beau-père, qui lui servait de témoin, croyant tirer sur moi, son adversaire. Je fis tant que Miss Alice Hornsby, ici présente, est devenue ma femme, et ne s'en repent pas, je crois. « Oh, cher aimé, non !» s'écria Madame Quatarkem, en s'appuyant doucement sur l'épaule de son mari. « Je pensais d'abord, » continua Quatarkem, a publié ma découverte dans l'intérêt du genre humain, et entre nous, c'était une sotte idée, car le genre humain ne vaut guère qu'on s'occupe de lui. Mais j'eus le bonheur que l'Académie des sciences se moquât de ma découverte, et sur le rapport de je ne sais quel vieux savant qui avait longtemps cherché la solution du problème sans la découvrir, déclara que j'étais fou allié. Par bonheur, j'étais déjà marié, et le vieux Cornelius Hornsby, mon beau-père, qui ne m'avait accordé la main de sa fille qu'en échange du brevet d'invention que je devais prendre et qu'il devait exploiter en France et en Angleterre, s'écria que je l'avais indignement trompé, me rendit ma parole, me donna sa malédiction et jura de ne plus revoir sa fille. « Pauvre père, » dit Alice. Cette fois, Alice et moi, nous avions la bride sur le cou. Alice, un instant ébranlée, reprit bientôt confiance. Je construisis mon ballon et j'en adaptai les diverses pièces moi-même, de peur d'indiscrétion, dans un village à 100 lieues de Paris. Je m'approvisionnais et je partis un soir avec Alice, décidé à chercher un asile dans un pays qui n'eût jamais vu l'ombre d'un académicien ou d'une société savante. Et tu as choisi Bhagavapur, cher ami? Ni Bhagavapur, ni aucune autre capitale, ni aucun pays civilisé ou peuplé, répliqua Quatarkem. Et voici mes raisons. L'homme, mon cher Maharaja, tu le sais mieux que moi, est un vilain animal. Hargneux, envieux, gênant, avare, querelleur, poltron, gourmand, dissolu, surtout il a grand-peine à supporter son voisin. Un sage a dit « Homo hominis lupus ». J'ai donc cherché le moyen de n'avoir aucun voisin d'aucune espèce. Et pour cela, j'ai fait en ballon le tour du globe terrestre. Je m'arrêtais, comme tu peux le penser, ni à la France, ni à l'Angleterre, ni à l'Allemagne, ni à aucune partie du continent européen. En planant au-dessus des villes et des campagnes, je voyais partout des soldats, des fonctionnaires, des mendiants, des prisons, des hôpitaux, des cavernes, des arsenaux ou des manufactures, et tout ce que la civilisation traîne derrière elle. La Turquie d'Asie me convenait assez, c'est le plus beau pays et le plus doux climat du globe. Je regardais avec envie les pentes du mont Taurus et j'étais tenté de construire ma maison sur l'un des sommets qui ne sont accessibles qu'aux aigles. Mais là encore, j'aurais eu des voisins, et qui pisaient des Turcs. L'Afrique me plaisait beaucoup. Là, dans ces solitudes délicieuses que dépeint le docteur Livingstone, gardées contre toute civilisation par le troupeau de singes et d'éléphants qui parcouraient la forêt immense et vont se baigner dans les eaux bleues du Zambèze, nous aurions pu, comme Adam et Ève, nous créer un paradis terrestre. Un matin, pendant que nous roulions ces pensées, en dirigeant notre vallon vers le centre de l'Afrique, nous aperçûmes à 500 pieds au-dessous de nous la petite ville de Ségo, capitale d'un royaume aussi étendu que la France, et nous vîmes avec la longue vue un spectacle étrange, épouvantable, que je n'oublierai jamais. 6 000 esclaves des deux sexes étaient rangés, les yeux bandés, les mains liées derrière le dos, au pied de l'enceinte de Ségo, qui est de forme circulaire. Derrière eux se tenait un pareil nombre de soldats, le sabre nu. Ils attendaient les ordres du sultan de Ségo, une sorte de nègre hideux, camard, lipu, lépreux, qui, du haut de son trône, s'apprêtait à donner le signal. Et enfin, cet affreux nègre parla. Je n'entendis pas ses paroles, mais je vis le geste, je le vois encore. À cette parole, à ce geste, 6 000 sabres tombèrent à la fois sur les coups des 6 000 esclaves et tranchèrent 6 000 têtes. J'en frémis d'horreur. Alice voulait partir, mais je la priai de rester, m'attendant que cette tragédie sanglante aurait un dénouement conforme à la justice divine. Au besoin, j'aurais moi-même contribué à ce dénouement, et je mis mon ballon en panne au moyen d'un mécanisme de mon invention qui est assez ingénieux. Je m'en vante. Je ne m'étais pas trompé. Après cet horrible carnage, il y eut dans la foule qui couvrait les remparts de Ségo un instant de stupeur, puis une rage furieuse s'empara de tous les spectateurs. On massacra les gardes du sultan, on le saisit lui-même, on égorgea devant lui ses femmes et ses enfants, on bâtit sur leurs cadavres une tour, au sommet de cette tour on fixa un plancher, et l'on cloua les membres du sultan sur ce plancher, de façon qu'il eut la tête tournée vers le ciel et qu'il fût, vivant, la pâture des oiseaux de proie. Je t'avoue, mon cher Maharaja, qu'un tel spectacle m'ôta pour jamais l'envie de m'établir sur les bords du Niger, du Nil ou du Zambèze, et m'aurait rendu le goût de la solitude si j'avais pu le perdre. Nous revîmes donc à ma première pensée, qui était de chercher une île déserte. Mais où trouver cette île précieuse, à l'abri de tous les pirates, de tous les marins, de tous les explorateurs? Excepté dans l'océan Pacifique, il n'y a pas un pouce de terre où les Européens n'aient planté quelques drapeaux unicolores, bicolores ou tricolores. Nous cherchâmes longtemps. Notre ballon plana pendant 8 ou 10 jours au-dessus de la mer des Indes et de l'Asie méridionale, mais nous ne trouvions aucune île, aucun rocher assez sûr pour abriter notre bonheur. Le continent, vu de si haut, nous paraissait une plaine immense, marquée de quelques ondulations imperceptibles au fond desquelles coulaient quelques ruisseaux, l'Indus, le Gange, le Brahmaputra, le Meinam. Vos monts Vindhya, dont vous êtes si fiers, vos Ghâts et l'Himalaya lui-même nous faisaient l'effet de ces murs que le paysan élève pour marquer la limite de son champ et qu'il franchit d'une enjambée. Enfin, redescendant vers le sud-est, nous contemplâmes ce merveilleux groupe d'îles immenses et innombrables, parmi lesquelles Java, Sumatra et Bornéo tiennent le premier rang. Là, tout nous attirait, la ferté du sol, la beauté du climat et même la solitude, car les hommes, animaux sociables et féroces, aiment à se réunir par milliers dans quelques coins de l'univers pour se dévorer plus commodément. J'enrage quand je vois des imbéciles qui s'appellent hommes d'État entasser leur peuple dans un étroit espace où tout manque, le pain, le vêtement, l'air et le soleil, et s'arracher à coups de canon des lambeaux de terre pendant que des centaines de mille lieues carrées restent sans habitants. « Mon ami, interrompit Corcoran, tu as raison, mais dis-nous vite où est ton île. Est-elle voisine de Barataria, où Sancho Panza fut gouverneur ?»« Mieux encore, continua Caterquem, mon île est unique dans l'univers. Cherche sur la carte de l'Océanie, à moitié chemin entre l'Australie et la Californie, à 200 lieues environ au sud-est des îles Sandwich. C'est là. Le 15 juillet de l'année dernière, cette date m'est restée dans ma mémoire parce que c'était le jour où j'avais coutume de ne pas payer mon terme. Nous commencions à nous sentir découragés par tant de recherches inutiles, lorsqu'un spectacle singulier attira notre attention. Nous appuyant tous deux sur le parapet de la nacelle, nous vîmes, à 1 000 pieds environ, au-dessous de nous, un trois-mâts américain en détresse. La surface de l'océan était calme, il n'y avait pas un nuage dans le ciel, le navire lui-même n'avait rien perdu de sa mâture, et cependant il tournait dans un cercle immense, avec une vitesse qui croissait à chaque minute. En même temps, il se rapprochait toujours davantage d'une espèce de gouffre ou d'entonnoir où l'entraînait le tourbillon des flots. L'équipage et les passagers, se voyant perdus, s'étaient agenouillés sur le pont et adressaient à Dieu une dernière supplication. En effet, Dieu seul pouvait les sauver, car les sciences des marins les plus expérimentés n'auraient pu lutter contre la force aveugle et irrésistible de la mer. Le gouffre où le navire était entraîné et qui n'a pas encore été signalée sur les cartes géographiques, est plus redoutable encore que le fameux Maelstrom, si redouté des Norvégiens. Son centre d'attraction était situé à 1500 pas environ d'une petite île que nous distinguions admirablement et qui paraissait avoir 7 ou 8 lieues de tour. Tout à coup, un dernier cri retentit sur le pont. Le trois-mâts, qui tournait toujours avec une rapidité prodigieuse, arriva enfin au fond du gouffre et s'engloutit. Nous regardâmes longtemps avec une émotion profonde le lieu du désastre. Aucun homme vivant ne reparut. Mais par une horrible ironie du destin, la mer se calma aussitôt que le navire eut fait naufrage. On eût dit qu'un monstre caché, satisfait de sa proie, rendait le calme aux flots. Peu à peu, les vagues se mirent à tourner en sens inverse et à ramener à la surface de l'océan tout ce qu'elles avaient englouti. Le trois-mâts lui-même, tout démantelé, à demi brisé, alla s'échouer contre les rochers. C'est alors que, regardant avec attention l'île au-dessus de laquelle se trouvait notre ballon, nous vîmes qu'elle était faite à souhait, comme dit Fénélon, pour le plaisir des yeux. Des forêts de bananiers, d'orangers, de citronniers en couvraient la plus grande partie. Le reste était revêtu d'un gazon plus fin et plus serré que le plus beau gazon d'Angleterre. Au fond des vallées coulaient 4 ou 5 ruisseaux d'une eau limpide, dans laquelle s'ébattaient gaiement des milliers de truites. Mais enfin, avantage appréciable, aucun homme sauvage ou civilisé ne semblait avoir mis le pied dans notre île. Je dis notre, car nous n'hésitâmes pas un instant. Dès le premier coup d'œil, Alice jugea qu'elle ne pouvait appartenir qu'à nous. Le gouffre la défend contre toute attaque par mer. Quant à celles qui peuvent venir du ciel, personne, heureusement, ne possède encore l'art de diriger les ballons. Quaterkem en était là de son récit lorsqu'un coup de feu retentit dans l'arsenal. Aussi, un tumulte épouvantable s'éleva dans le palais d'Holkar et lui coupa la parole. Louison, qui était couché sur le tapis et qui regardait le narrateur avec une curiosité mêlée de sympathie, se leva toute droite et dressa les oreilles. Le petit Rama prit un air belliqueux, comme s'il se fût préparé au combat. Moustache se hérissa et se plaça devant Rama, terrible rempart. Corcoran se leva sans rien dire, prit un revolver à crosse d'argent qui était suspendu à la muraille, et voyant que Quaterkem s'armait et allait le suivre, lui dit d'un air calme. Mon cher ami, reste avec les femmes et veille à leur sûreté. Je te laisse Louison. Il n'y a rien à craindre. C'est une sentinelle qui aura fait feu par mégarde. Louison, reste ici, ma chérie. Je le veux.